Radio Kapi.
Des combats se poursuivent ce samedi entre les FARDC et le M23 dans la zone d'Erangira, territoire des Rutshuru. D'après les sources administratives, les rebelles continuent à larguer des obus sur les positions des FARDC à Rangira. Des obus qui font des victimes parmi les civils. Et puis les femmes et les personnels soignants sensibilisés sur le cancer des seins à Lubumbashi, c'est dans le cadre du mois d'octobre appelé « Octobre Rose ». Hier vendredi, une conférence scientifique a été organisée à ce sujet. Enfin, un autre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Marie-Thérèse Sombo, neuropsychiatre au CNPP. Elle a co-animé un symposium des femmes dans les neurosciences à l'UNIKIN. C'est dans le cadre du mois d'octobre, mois de la santé mentale. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les affrontements continuent ce samedi matin dans la zone de Rangira. C'est dans le groupement Djomba, en territoire des Rutshuru. Des sources administratives et civiles signalent l'utilisation d'armes lourdes dans ces combats qui opposent l'armée régulière aux rebelles du M23. Positionnés sur les collines Mukarange et Chouema, ces rebelles continuent à larguer des obus sur les positions des FARDC à Rangira. Des obus qui font des victimes parmi les civils. Les détails avec Piro et la Mézi.
Au niveau du marché des Rangira 1, 4 personnes, dont une femme et 3 enfants, ont été blessées ce samedi matin par les déflagrations d'un obus largué par les rebelles du M23. Ils ont été dépêchés dans une structure de santé pour être pris en charge. Les sources administratives sur place qui confirment l'information ajoutent que plusieurs familles continuent à quitter la zone des combats pour se mettre à l'abri dans le village de Tcheya. D'autres vont dans le Boussanza. Vendredi, l'utilisation des armes lourdes a occasionné la mort des civils à Rangira. Les autorités locales confirment la mort de 4 personnes. La société civile de Djomba, qui regrette ces morts de trop, signale que leurs obsèques sont prévues ce samedi à Tcheya. Notons que ces affrontements ont lieu à environ 7 km du chef-lieu du territoire de Rutshuru. C'est depuis jeudi que les tirs ont à nouveau été entendus après une courte période d'accalmie sur la ligne de front.
Et puis, en territoire de Beni, lancement jeudi dernier d'un projet d'assistance des personnes déplacées et la mise en place des activités de protection. Ce projet, qui concerne 2 zones de santé du territoire de Beni, sera exécuté par 2 organisations non gouvernementales sous le financement de fonds humanitaires de la République démocratique du Congo. Marc Marofimbo pour des précisions.
8000 ménages, dont 5000 dans la zone de santé de Mutuanga et 3000 dans la zone de santé de Beni, sont ciblés par ce projet qui consiste à l'assistance en faveur des populations affectées par les déplacements suite à l'insécurité qui règne dans la région à travers la distribution des articles ménagers essentiels et la mise en place des activités de protection, comme l'explique ici Henri Abamungo, superviseur du dit projet au compte de Midefehops.
On va toucher 8000 ménages, dont 3000 dans la zone de santé de Wicha, 5000 dans la zone de santé de Mutuanga. Ça va aussi aider les femmes en âge de procréation dans les kits de dignité. À part ce kit de dignité, le projet va prendre en compte les activités de protection, d'où la protection communautaire sera de mise. C'est une approche que nous avons adoptée pour bien faire ce travail au sein de la communauté.
Signalons que ce projet, qui va durer 13 mois, est financé par les fonds humanitaires de la RDC et qui sera exécuté par 2 organisations, dont Mouvement international des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale, MIDEFEOPS, et Rescue International. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, dans le cadre du mois d'octobre appelé Octobre Rose, le centre médical du centre-ville CMDC à Lubumbashi sensibilise les femmes et les personnels soignants sur le cancer des seins. Ce vendredi, une conférence scientifique a été organisée à ce sujet. Tous les intervenants étaient unanimes. Il faut prendre le taureau par les cornes et mutualiser les efforts dans la prise en charge de cette maladie qui fait beaucoup de victimes dans nos milieux. Jean Gandou.
Le cancer du sein est de plus en plus diagnostiqué dans les structures médicales locales. Les victimes sont comptées aussi bien chez les jeunes filles que chez les femmes. Les orateurs du jour ont constaté que, dans la plupart des cas, les patients se présentent devant les personnels soignants lorsque la maladie a déjà atteint un stade avancé. Par rapport à cet aspect des choses, le docteur Pascal Naouège, organisateur de cette conférence, est éveiller la conscience de femmes.
Toute femme devrait avoir une conscience éveillée sur le risque potentiel un jour ou l'autre de développer le cancer du sein et adopter une démarche de dépistage en commençant tout simplement par une autopalpation des seins. Dès l'instant qu'on sent quelque chose d'anormal, on va consulter son gynécologue obstétricien ou alors on consulte un oncologue.
Pour une bonne prise en charge de malades, les radiologues, les oncologues, les chirurgiens, les gynécologues et autres ont été appelés à unir leurs efforts et à travailler en réseau.
Il n'y a pas une organisation structurée de riposte et de gestion des problématiques de cancer. Nous pensons à l'issue d'une conférence comme celle-ci, les personnes peuvent se constituer en réseau pour organiser un programme qui peut nous permettre d'aller jusqu'à connaître véritablement l'ampleur du problème.
Notons que l'hôpital, le centre médical de Centreville, organise dès la semaine prochaine une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein et de l'utérus. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Parlons toujours santé. À Boutembou, accompagner les responsables de différentes structures religieuses et des centres d'encadrement des personnes accusant des troubles mentaux, c'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités qui s'est clôturé hier vendredi. Cette formation de 4 jours à l'initiative de l'organisation dénommée Meding the Soul Ministries, soit ministère de la guérison de l'âme, a tourné autour du thème passe blessure, la guérison de traumatismes. Les participants, une cinquantaine, se disent suffisamment outillés au regard des tâches respectives qu'elles assument dans la communauté. Reportage, Grévis Salomon.
La situation sécuritaire précaire à l'est du pays est à la base des blessures sur le plan psychologique pour plusieurs personnes. C'est la raison principale qui a poussé l'organisation ministère de la guérison de l'âme à organiser cette séance d'échange avec différents responsables et représentants des communautés religieuses, membres de l'ECC, des centres d'encadrement des malades, des orphelinats et que de quelques leaders communautaires. C'est ce qu'explique ici Mwindo Mawa, coordonnateur de ces ministères religieux.
On vit dans un rayon où il y a la guerre, les gens sont blessés, les âmes sont déjà brisées, alors nous les équipons afin qu'ils puissent répondre à ce défi-là de réparer les âmes brisées par la violence. Ce sont des gens qui sont en contact avec des gens en détresse, en difficulté de santé mentale.
Les participants, quant à eux, trouvent importantes les notions apprises qui vont les aider à bien jouer pleinement leur rôle, chacun dans son rayon d'action. C'est ce que dit l'un des participants, le major Kambale Kakuku Jacques-Claude, aumônier militaire de l'église protestante dans la région de Beni-Boutembo.
Ça sera vraiment bénéfique dans notre armée. Nous vivons vraiment la vie précaire et nous avons maintenant des outils et comment détraumatiser nos militaires, nos veuves et nos orphelins que nous sommes en train d'encadrer.
Ajoutons que présent à cette cérémonie de clôture, le président de l'église du Christ du Congo, ECC, a salué cette initiative. Monseigneur Issé Somo a appelé les participants à mettre en pratique les notions apprises au regard des défis qui restent encore énormes au vu de multiples événements qui se passent dans la région. Et puis, dans la province du Maniema, la réparation des fistules obstétricales à l'hôpital général de référence de Kindu évolue très bien. Pour une prévision de 60 malades à opérer cette année, avec le financement des Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, plus de 50 d'entre elles ont déjà été opérées. La province du Maniema ayant beaucoup de cas de fistules, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kindu plaide auprès de son partenaire UNFPA d'augmenter son enveloppe afin de servir beaucoup d'autres femmes souffrant de cette pathologie. Florence Kizalunga, reportage.
C'est d'une manière régulière que l'hôpital général de référence de Kindu procède à ses interventions. À 50 cas aujourd'hui, le médecin directeur de l'hôpital général parle de beaucoup de cas qui ont besoin des soins. Docteur Famba Ramazani.
Depuis un certain temps, on était en mode campagne. Maintenant, on a commencé en mode routine et nous opérons tous les cas de fistules qui viennent nous consulter. Nous les opérons. Il y a beaucoup de cas de fistulaises ici, mais selon le financement des UNFP, c'était prévu qu'on opère 60. Nous, on ne peut qu'opérer ce qui est prévu.
Les bénéficiaires de ces services, en dehors de remerciements, s'engagent à sensibiliser les autres qui ignorent que les soins existent, comme le dit Alima Florence.
J'ai souffert de fistules pendant 6 ans. Et ensuite, je suis venue à l'hôpital général. On m'a opéré gratuitement, sans rien donner. Et je suis à bonne santé. Et puis, j'ai reçu un kit de dignité. Je remercie beaucoup les Fonds des Nations Unies pour la population. Moi aussi, je vais sensibiliser d'autres femmes qui souffrent de la fistule de venir à l'hôpital général.
C'est avec la main-d'œuvre locale formée à l'hôpital de Panzi de Bukavu sous financement de UNFPA que l'hôpital provincial de Kindu fait ses travaux. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Bonne nouvelle pour la province du Kasaï oriental. Arrivé en Bujimaï jeudi dernier, de 56 poteaux pour le transport de l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi à Tiboué dans le territoire de Miabi vers la ville de Mbujimaï. C'est le premier lot sur les 300 autres poteaux attendus pour le soutirage de l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de la société Anui Congo d'investissement minier Sakim dans le cadre du projet de l'électrification de la ville de Mbujimaï et des localités de Boya, Miabi et Kabeakamwanga. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL Kasaï Oriental a présenté ses équipements au gouverneur des provinces à l'entrée de la ville de Mbujimaï au niveau de péage de Tibombo. Selon Jean-Crispin Mukendi, les travaux de piquetage doivent bientôt commencer en attendant le déploiement de tous les poteaux. Les propos de Jean-Crispin Mukendi ont été recueillis par nos confrères accrédités au gouvernorat de province.
Nous avions promis qu'il y a des matériels qui devaient être fabriqués à Kinshasa et d'autres matériels seront acquéris localement. Parmi les premiers lots de matériels que nous venons de réceptionner, c'est les 56 poteaux qui sont venus de Kinshasa. Il y a 300 poteaux qui ont été déployés de l'entreprise Soja jusqu'à Kamwesha. Et un seul camion est parti de Kamwesha vers ici. Un autre camion, d'après les expressions que j'ai eues du convoyeur, il est tombé en panne à 60 ou 30 kilomètres de Kananga vers Mbujimaï. Donc là, il va décharger le premier lot de 56 poteaux à Boya et permettre aux dirigeants de Sojiak de commencer déjà à implanter les poteaux. Parce que le piquetage étant terminé, on ne voit pas pourquoi on peut conduire assez longtemps pour ne pas implanter les poteaux. Et au niveau de Bipemba, nous avons déjà commencé la génie civile. Les poteaux sont de 250 kilos. Les poteaux sont en acier galvanisé. Et bientôt là, nous allons déplacer vers Bipemba et les entreprises. Ainsi commencer les travaux d'implantation de telle manière que la population soit soulagée d'un peu avec les 3 MW qui seront additionnels, avec les 1,6 MW de notre groupe thermique, donc nous allons avoir 4,6 MW sur la ville.
Autre nouvelle, il s'est tenu ce vendredi à Kalemi un atelier de vulgarisation de la charte régionale de la gestion du lac Tanganyika. Objectif, expliquer aux participants le contenu, le fondement, le but et les atouts de cette charte. Cet atelier a été organisé par l'ONG Pacte Congo et financé par l'USAID. Paul Mounanga pour les détails.
Cette charte régionale a été signée à Kigoma en République unie de Tanzanie le 16 décembre 2021 par quatre pays qui ont en commun le littoral du lac Tanganyika. Il s'agit de la RDC, la Zambie, le Burundi et la Tanzanie. La charte porte sur la gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika et son bassin. Ces quatre pays s'engagent à assurer la conservation à long terme, la protection, la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques de ces lacs. D'après l'un des participants, il y a certaines espèces animales et végétales qu'on ne trouve qu'au lac Tanganyika, d'où la protection des ressources est nécessaire pour les générations futures. Crispin Michel Ilunga, chef de division provinciale du plan dans la province du Tanganyika.
Avec c'est plus de 2000 espèces halieutiques, tant animales que végétales, qui vivent dans le lac. Il y en a 600 qui sont endémiques, donc qui ne sont que dans le lac Tanganyika. Et si on les perd, c'est-à-dire que c'est irréversible, il n'y a pas un autre bassin où on va récupérer pour repeupler.
Signalons parmi les participants à cet atelier les autorités de la province du Tanganyika, les activistes de la société civile et les membres des différentes organisations. Kalemi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Page économique dans cette édition du journal. La croissance économique en République démocratique du Congo se situe autour de 6,1% en 2021, en dépit du déficit en électricité et infrastructures. C'est ce qu'a déclaré la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Louis Watoum, président de cette structure, l'a dit au cours de la conférence de presse tenue ce vendredi 21 octobre ici à Kinshasa. Il a ajouté que le secteur minier est le principal contributeur de cette croissance. Louis Watoum est au micro de Paul Matin.
Et lorsqu'on voit la tendance au premier semestre et la tendance au troisième trimestre également, tout porte à croire que nous allons franchir le cap des 2 millions de tonnes de cuivre l'an. Et je vois que c'est irréversible. Tout cela veut dire beaucoup de retombées dans les escarcelles de l'État, mais également beaucoup de richesses créées. Et je continuerai à marteler sur le thème richesse parce qu'une richesse n'a un sens que si elle est partagée de manière équitable. Tout cela veut dire que la croissance économique de notre pays reste robuste, reste forte, aux environs de 6,1%. Et le secteur minier, bien sûr, est le principal contributeur de cette croissance. Deux provinces ont payé une redevance minière qui va presque autour de 650 millions de dollars. Et si nous prenons 650 millions de dollars, mesdames, messieurs, en rouge, c'est ce que ça peut faire pour nous. C'est énorme. Nous devrons de plus en plus nous poser la question de savoir où va cet argent. reconstruit 6000 écoles, 64 universités, j'en passe. Le programme des 145 territoires, il y a 1,7 milliard de dollars. Vous comprenez que si nous prenons ce montant-là, nous le multiplions par 2,5. Chaque année et demie, on peut financer un programme des 145 territoires.
Actualité internationale.
En international, la junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, indique un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest rendu public hier vendredi soir, 21 octobre. Une mission de la CEDEAO séjournait à Conakry depuis le 16 octobre afin de discuter du retour à l'ordre constitutionnel. Et puis le président Xi Jinping a annoncé ce samedi la clôture du 20e congrès du Parti communiste chinois PCC après une semaine de délibération à huis clos pour remanier l'équipe dirigeante de la deuxième économie mondiale. Osez-vous battre pour la victoire, travaillez dur pour aller de l'avant, a dit Xi Jinping, qui devrait obtenir ce week-end un troisième mandat comme secrétaire général du parti, l'assurant d'un troisième mandat présidentiel inédit en mars prochain.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Marie-Thérèse Sombo, neuropsychiatre au CNPP, qui a co-animé un symposium des femmes dans les neurosciences à l'UNIKIN dans le cadre du mois d'octobre, mois de la santé mentale. Elle est interrogée par Innocent Fadili sur l'importance de ce thème. Suivez.
Professeur Marie-Thérèse Sombo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychiatre et vous venez d'animer une conférence ou symposium des femmes dans les neurosciences. Dites-nous pourquoi cette conférence en ces jours.
En fait, le symposium était prévu au mois de juillet, qui est le mois du cerveau. Mais nous avons eu un peu de retard dans la réalisation et nous avons tenu à le faire au mois d'octobre parce que c'est le mois de la santé mentale. Donc, on ne peut pas parler santé mentale sans cerveau.
Et pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il y a besoin en neurosciences?
Il y a sérieusement besoin parce que les neurosciences étudient les comportements. Alors, on ne peut pas développer un pays sans comprendre le comportement humain, sans avoir une bonne santé mentale. C'est fondamental.
Et quel effectif avez-vous en neurosciences actuellement sur toute l'étendue du territoire national?
Par rapport aux femmes?
Oui, par rapport aux femmes, effectivement.
Bon, nous n'avons pas assez de données, mais s'il faille qu'on parte de la situation de notre centre, le centre neuropsychopathologique, CNPP, où nous faisons de la neuroscience, mais de la neuroscience clinique, nous pouvons dire que l'effectif serait de 8%. Donc, il y a vraiment une faible représentativité.
À ce qui concerne la différence entre neurosciences cliniques et fondamentales, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Les neurosciences cliniques, ce sont les disciplines qui s'occupent de la clinique ou qui traitent de maladies qui touchent le cerveau ou la santé mentale. Alors, nous avons la neurologie, nous avons la psychiatrie et la psychologie. Les neurosciences fondamentales, c'est des disciplines qui explorent les systèmes nerveux ou les cerveaux pour comprendre la maladie ou les problèmes du système nerveux.
Et quel profil recherchez-vous qui peut embrasser les filières des neurosciences?
Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, quand on parle de neurosciences, on voit d'abord nous autres qui sommes en neurologie ou en neuropsychiatrie ou encore les psychologues. Mais les neurosciences, c'est vraiment un domaine qui est en train de s'étendre et toucher presque tous les domaines de la vie. Et maintenant, on peut parler de la neuroéconomie, du neurodroit. Donc, les neurosciences vraiment font des tentacules un peu partout dans tous les secteurs de la vie.
À part ce symposium, pensez-vous faire des descentes sur terrain?
Nous avions comme objectif de rassembler les femmes chercheurs ou les femmes faisant partie du corps professoral qui font de la recherche d'abord et de neurosciences en particulier. Parce que certaines n'ont pas peut-être la vision des neurosciences, mais on a cherché à leur faire comprendre qu'on peut se rassembler dans notre diversité, faire de la neuroscience ensemble et essayer de travailler en commun pour améliorer la santé cérébrale de notre population. Nous avons également visé les jeunes dames, les étudiantes, pas seulement en médecine, mais d'autres facultés, ainsi que les médecins généralistes, les médecins en spécialisation, qui peuvent embrasser les domaines de neurosciences. Mais nous ne sommes pas limités là, nous avons visé les élèves, les les pré-finalistes, les finalistes. Bon, l'activité n'a pas eu lieu, mais nous nous projetons dans les jours à venir de faire des descentes sur terrain, des descentes dans des écoles pour susciter, parler aux filles de neurosciences et leur susciter en elles des vocations pour plus tard embrasser la carrière de neurosciences.
Professeur, un dernier mot à tous les auditeurs qui vous écoutent.
Je dirais tout simplement, la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Donc les neurosciences s'occupent de la santé mentale et ce n'est pas seulement l'affaire des personnes qui sont des malades psychiatriques, mais tout le monde peut être touché et vivre la difficulté ou le problème d'une façon qui peut nécessiter soit l'apport ou la contribution des psychologues jusqu'au psychiatre ou au neuropsychiatre. Donc on ne peut pas regarder les neurosciences de loin en disant que c'est l'affaire des malades mentaux, mais c'est l'affaire de tout le monde. Puisque pour que nous ayons la paix, que nous ayons un bon développement, nous devons avoir une bonne santé mentale et cérébrale.
Professeur Marie-Thérèse Sombo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminé cette édition du journal. Mise en onde, Alain Goy, coordination Pierrot et Lamégie sous la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci de nous avoir suivis.